On va aller dans Jacques chapitre 4 et on va lire les versets 13 à 17. Verset 13, il est dit « À vous maintenant qui dites, aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ville, nous y passerons une année, nous trafiquerons et nous gagnerons. Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain, car qu'est-ce que votre vie ? C'est une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. Devriez dire au contraire, si Dieu le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. Et maintenant, vous vous glorifiez dans vos pensées orgueilleuses. C'est chose mauvaise de se glorifier de la sorte. Celui donc qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas, commet un péché. » Après avoir parlé des épreuves, après avoir parlé des tentations, après avoir parlé de la vengeance, de la colère, Jacques a aussi parlé de tout ce qui est favoritisme, ces péchés que parfois on minimise un peu dans notre vie chrétienne. Il va s'attaquer maintenant un peu à la prétention de l'homme, parce que des fois on est prétentieux, non ? On l'est tous, hein, d'une manière ou d'une autre, on est prétentieux à un moment, et tout particulièrement dans les projets peut-être qu'on va avoir dans notre vie. Vous avez déjà fait des projets ? Vous en ferez encore, j'espère. Sinon, on s'ennuie dans la vie. Si on n'a rien à faire, ça va être un peu pénible. Et comment vous abordez ces projets ? C'est ça la question. Et c'est ce qu'il est en train d'aborder là, face à des gens qui ont des projets, qui font les choses, mais qui les font sans Dieu, tout simplement. Donc les hommes ont des projets, obligatoirement. Sinon, vous êtes triste, hein, dans votre vie. Il y a des grands projets, il y a des petits projets, mais c'est toujours des projets. Et Jacques va faire des reproches à ces gens qui disent, à vous maintenant, hein, là, il est en train de s'adresser à... Est-ce qu'il s'adresse aux chrétiens ? C'est difficile de le savoir, mais en tout cas, il y a dans cette expression qui est propre à Jacques, il y a quelque chose qui est désapprouvé, là. Il n'est pas d'accord avec ce que font ces gens-là à ce moment-là. Littéralement, l'expression « à vous maintenant », on pourrait dire « ceux qui ont l'habitude de dire ». Il y avait certainement des gens, dans l'Église ou ailleurs, qui avaient l'habitude de dire « nous, on va faire maintenant des choses, des projets, des plans, etc. » Mais sans Dieu. On a réussi jusqu'à présent, on va continuer comme ça, mais sans Dieu. Et si chacun regardait un peu dans sa vie, est-ce qu'il y a des moments où il n'y a pas des projets qu'on a fait sans Dieu ? Ou un peu de Dieu, pas trop, parce que bon, ça me gênait, ou je ne sais pas. Est-ce que chaque fois que je projette quelque chose dans ma vie, est-ce que Dieu fait partie intégrale de ce projet ? Alors comme j'ai dit, avant il disait tout le temps frère, 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 donc on savait qu'il s'adressait à l'Église, mais là il ne le dit pas directement. Peut-être c'était des marchands qui étaient du monde, peut-être des marchands chrétiens aussi, parce qu'il y en avait certainement. Mais en tout cas, ce qu'il veut noter là, c'est peut-être l'ambition ou l'aspect autoritaire qu'ils avaient d'agir de leur propre force et sans Dieu. Je fais les choses parce que j'ai la force en moi de les faire. Et Dieu, bon, on verra un jour. Généralement, quand ça ne marche pas, on va pleurer et on va courir après Dieu. Mais bon, là, pour l'instant, il n'y avait pas encore de résultat. Il faut savoir qu'à l'époque, c'était très prospère. Le commerce, il y en avait beaucoup. Et donc forcément, il y avait beaucoup de gens qui travaillaient, qui faisaient des projets. Il y avait un grand trafic. Donc il y avait de quoi faire à cette époque-là, comme aujourd'hui. Toujours. Mais c'est des objectifs qui sont un peu ambitieux, prétentieux. Et Jacques va reprendre ceux qui veulent agir par eux-mêmes. Ce n'est pas le problème de faire du profit là-dedans. Jacques ne reprend pas cette idée-là. Le problème, c'est d'écarter Dieu de ce projet qui va produire du profit. Hein. Comme il dit, ils planifient eux-mêmes comme s'ils étaient omniscients, comme s'ils étaient omnipotents, un peu comme s'ils étaient invulnérables. Et des fois, on a l'impression que parce que tout va bien, parce qu'on a de l'argent, alors on avance et on fait des projets et on a l'impression d'être invulnérable. Ils choisissent le temps, la ville, la durée, le trafic qu'ils vont faire. Ils sont sûrs qu'ils vont gagner de l'argent. C'est beau être toujours sûr comme ça, ça serait bien aussi, hein, mais bon, pas toujours comme ça. Mais il y en a qui ont cette prétention-là. Bon, il y en a qui sont prêts à faire n'importe quoi aussi pour y arriver. Si on suit les règles, généralement, on ne va pas très loin. Mais il y a une leçon pour nous aussi, peut-être. D'abord, que l'homme ne peut pas vivre sans projet. Quelqu'un écrivait « Un homme sans projet est l'ennemi du genre humain ». C'est fort ce qu'il dit. Si toute l'humanité s'arrêtait d'avoir des projets, qu'est-ce qui se passerait ? La Terre s'arrête de vivre, tout simplement. Et nous-mêmes, on a besoin d'avoir des projets, de se projeter un peu dans l'avenir. J'ai envie de construire ma maison, j'ai envie de faire des études, j'ai envie de faire ci et ça. On a besoin de cela parce que ça dynamise notre vie. Sinon, on part en dépression, généralement, parce que si j'ai plus de projets, ben, j'ai plus rien à faire sur cette Terre non plus. Hein. Mais ça fait partie de la vie intégrante de l'homme, et la vraie question, c'est savoir comment nous les baptisons, ces projets. Quand nous les baptisons. Et l'homme cherche peut-être toujours à faire du profit, ok? Maintenant, la question, c'est aussi de savoir, est-ce que je vais travailler juste pour gagner un maximum de fric, pour avoir la plus belle maison, pour la plus belle voiture du monde, surtout par rapport aux voisins, hein? Est-ce que c'est ça l'objectif de travailler dans la parole de Dieu? À quel point je suis prêt à me sacrifier dans mon travail pour avoir de l'argent, peut-être au détriment de la planète, ce que nous faisons aujourd'hui, on détruit notre planète, parce qu'il y en a qui préfèrent travailler plutôt que ne plus polluer. Est-ce que je suis prêt à sacrifier ma santé dans mon travail, jusqu'au point où j'en peux plus et que je finis en burn-out, comme il y en a de plus en plus, que je suis prêt à sacrifier ma famille. J'avais un directeur comme ça qui était prêt à sacrifier sa famille, il ne l'aimait pas, il ne posait pas de problème. Est-ce que je suis prêt à sacrifier ma vie d'église juste pour les sous-sous, pour le profit tout simplement? Et ça nous engage tous quelque part, parce qu'on est tous un peu avec cette envie de gagner un peu plus. C'est normal, on en a des fois besoin, mais des fois on n'en a plus besoin, mais on a envie de continuer parce que c'est bon d'avoir de l'argent sur son compte en banque. Mais face à ces projets, Jacques va maintenant discerner deux attitudes à avoir. Il ne dit pas « n'ayez pas de projet », il ne dit pas « ne faites pas de profit », il ne dit pas « ne travaillez pas », mais il y a deux manières de le faire peut-être. Exclure ou inclure tout simplement Dieu. Versets 14 et 16, il va parler de ceux qui excluent Dieu de leur projet. Exclure Dieu, c'est se croire maître du temps. Vous maîtrisez votre vie ? Bon, ce matin vous êtes levé, c'est vous qui avez décidé, enfin, peut-être le réveil, à votre place. Mais est-ce que vous maîtrisez votre vie ? Vous savez qu'est-ce qui va arriver à midi tout à l'heure ? On va manger. Moi, je le sais. Enfin, j'espère en tout cas. Peut-être pas à midi pile. Mais oui, on ne maîtrise absolument rien. Dans Luc chapitre 12, versets 16 à 21, Jésus disait, il leur dit cette parabole. « Les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté et il raisonnait en lui-même, disant, « Que ferai-je ? Car je n'ai pas de place pour serrer ma récolte. Voici, dit-il, ce que je ferai, j'abattrai mes greniers, j'en bâtirai de plus grands, j'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens, et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années, repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. Mais Dieu lui dit, insensé, cette nuit même ton âme te sera redemandée, et ce que tu as préparé, pour qui sera, cela sera-t-il ? Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche. Dieu. Il ne dit pas qu'il faut arrêter de faire des projets, mais il ne faut pas exclure Dieu, le paramètre Dieu aussi dans ses projets. On n'est pas maître de notre vie. On ne sait pas quand on va rejoindre le Seigneur. On ne sait pas ces choses-là. Et des fois, on est un peu trop orgueilleux dans justement cette volonté de profit ou d'aisance que l'on a, et en croyant que ça y est, on est éternel, tout simplement. Hein. On ne pense pas tous les jours à la mort. Hein. Enfin, pas moi, en tout cas. Et on a l'impression d'être vraiment éternel, des fois. Mais Jacques reprend, il nous rappelle nos limites, parce que vous êtes limité, désolé, je ne vous souhaite pas la maladie, mais ça va venir un jour ou l'autre peut-être, un accident, un attentat, ça c'est des nouveaux paramètres aujourd'hui, qui peuvent arriver n'importe où, finalement ben, on ne maîtrise pas notre vie, on croit la maîtriser, et on se leurre bien, on croit la maîtriser. Alors il ne s'agit pas seulement d'avoir conscience qu'on ne maîtrise pas cette vie, parce que des fois on le sait intellectuellement, mais il faut peut-être vivre aussi avec cette variable tous les jours. Si je sais que je ne maîtrise pas ma vie, bah, ça me calme un petit peu, parce que je n'ai plus la même prétention peut-être de vivre comme je le faisais avant. C'est vivre dans la réalité, j'ai envie de dire. On vit dans notre réalité, mais on conçoit aussi notre réalité des fois. Hein. Mais quand l'accident, la maladie, la mort vient, d'un coup, tout devient réel. Et on n'est plus dans cette idée qu'on est éternel, que rien ne peut nous arriver. Et généralement, ben, c'est là où, ça rejoint un peu le psaume tout à l'heure, où on devient tout humble face à la maladie, face à l'accident, face aux difficultés que la vie peut engendrer parfois. Et si nous vivons vraiment dans cette réalité, eh ben, finalement, on restera totalement dépendant de Dieu. Quand on est malade, généralement, on crie à Dieu. Quand on n'est pas malade et qu'on a de l'argent sur le compte en banque, on parle à Dieu de temps en temps. Voilà. Mais quand on retombe dans la réalité, là, d'un seul coup, Dieu devient vraiment réel. Et on en a tellement besoin qu'on devient totalement dépendant de lui. Si seulement on pouvait vivre comme ça tous les jours, dépendant totalement de Dieu, du matin au soir. Il faut travailler, évidemment. Mais Dieu permet des fois qu'il y ait des retours à la réalité et que notre maîtrise, soi-disant, de notre vie, ben, retombe très vite et qu'on devienne humble. Et on en a besoin. Qu'est-ce que notre vie ? Dit Jacques. Sur l'histoire de l'humanité, nous, 100 ans, ça nous paraît long, mais sur l'histoire de l'humanité, ça passe tellement vite. Et quand on arrive à la veille de notre vie, on se dit, purée, c'est passé à une vitesse, cette vie. J'ai peut-être pas fait tout ce que je voulais faire, ou j'aurais dû faire. Et on regarde des fois. Mais on est fragile, notre existence est fragile, et comme il dit, très poète, hein, la vie est comme une vapeur, elle vient et puis elle disparaît. Personne ne se souviendra peut-être de nous dans l'histoire. Je ne sais pas, écrivez des livres, peut-être que ça marchera. Mais on passe tellement vite. Heureusement que Dieu se souvient de nous. Mais cette fragilité, justement, si on y réfléchit, si on la fait comme étant réelle dans notre vie, eh bien, ça nous pousse à devenir des enfants humbles, tout simplement. Et humbles devant notre Père céleste. Ça doit nous pousser vers Dieu tous les jours, justement, de réaliser notre fragilité. Mais on est forts. On est tous forts, non ? On l'est tous, on a l'impression de l'être en tout cas. Ben non, la vie nous rappellera un jour ou l'autre que nous sommes très fragiles. Et pour chaque projet, parce que là aussi, si moi je suis fragile, mes projets aussi sont fragiles quelque part, fragilisés à cause de mes compétences à moi. Si j'ai un projet, la première chose que je dois faire, c'est aller me blottir dans les bras du Père céleste. Papa, j'ai besoin de conseils, si on peut le dire comme ça. Après, chacun l'exprime comme il veut, mais... Voilà, j'ai quelque chose à faire, j'ai des ambitions dans ma vie. La question maintenant, c'est savoir qu'est-ce que toi, tu en penses. Parce que je sais que moi, je suis très limité avec mes capacités en tant qu'humain. Mais toi, par contre, toi, tu n'es pas limité. Toi, tu sais absolument tout. Et qu'est-ce que tu penses de tel ou tel projet ? Mais si je ne le fais pas, j'exclus Dieu et je me crois maître du temps et de la terre. C'est peut-être grand ce que j'ai dit là, mais c'est vrai, en fait, même si on ne le réalise pas dans notre vie. Puis une autre chose, exclure Dieu, c'est tromper aussi son cœur, des fois. Parce que des fois, on confond la chair et Dieu. J'ai envie, c'est souvent la chair qui a des envies, et puis des fois, ben, je la confonds avec la volonté de Dieu aussi. J'aime bien mélanger les deux. Hein. Vous savez, le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout, et il arrive à tout expliquer, à tout arranger pour arriver à ses fins. Et des fois, l'excitation justement des projets, des profits, ben, va souvent conduire à rejeter Dieu et à plutôt laisser la chair convoiter ce profit. Et parfois, on sait même que Dieu n'est pas d'accord avec, ou du moins, on a une petite idée de ce qu'il pense. Mais bon, ça m'embête parce que là, je vais gagner de l'argent. Là, ma chair, elle va être satisfaite. Donc, allez Seigneur, t'es gentil, je t'écarte du projet. Qu'est-ce que fait Dieu ? Vas-y. Comme les enfants, laissez-les faire des fois, hein, toucher le feu. Ils vont vite voir que ça fait mal après. Et Dieu nous laisse faire des fois. Ou alors, parfois, on s'auto-persuade d'avoir impliqué Dieu. Notre façon de nous tromper, quelque part. On veut impliquer Dieu dans notre projet. On va vite prier, Seigneur, nanana, t'as vu, nanana, amen. Hop. J'ai impliqué Dieu. Wow, c'est super. Et d'un coup, on a l'impression que le ciel s'ouvre et que Dieu vous dit oui. Là, vous n'êtes jamais arrivé, ça ? Vite demander à Dieu, parce qu'on est peut-être pressé ou dans une tension, et t'as l'impression que Dieu dit oui. Il dirait jamais non. C'est curieux, ça, par contre. Ou rarement, il va vous dire non frontalement, quoi. Parce que le oui, c'est nous qui lui mettons dans la bouche, bien généralement. C'est pas lui qui nous le dit. Ou nous prions parfois, tout simplement, pour avoir une bonne conscience. Bah ouais. Ah, j'ai prié Dieu. Normalement, maintenant, il va être obligé, forcément, de... faire que je réussisse dans tel ou tel domaine de mes projets. Mais le cœur, lui, il n'est pas sincère. La chair est là. On peut investir dans l'orgueil aussi pour provoquer du profit. Jésus avait mis en garde dans Luc 12, « La vie d'un homme ne dépend pas de ses biens. » Je regarde personnellement personne en fonction de ce qu'il a sur son compte en banque ou de sa grande maison ou je ne sais pas quoi. Moi, je vois le cœur de la personne. C'est ça qui est le plus... à regarder chez quelqu'un. Ce n'est pas tout à fait ce que le monde nous apprend, évidemment. Mais Jésus, lui, regardait le cœur. La richesse, il s'en fiche. Votre bagnole, il s'en fiche. Ce qu'il veut voir, c'est votre cœur, mon cœur. Et il avait mis en garde contre l'avarice. Parce qu'on peut être parfois avare, parce que le profit pousse à l'avarice. Forcément, plus on a, plus on en veut, plus on devient... on garde tout pour nous, devenir avare, et puis les autres, on s'en fiche. Ils sont quand même... Puis la position sociale, parce que quand on devient riche, on commence à avoir une position sociale, puis on fréquente les grandes... Tout ça, c'est de l'orgueil, tout simplement. C'est de l'orgueil. Et Dieu voit ce cœur, mais il ne l'approuve pas. La vie d'un homme ne dépend pas de ses biens. Ça ne sert à rien d'amasser, 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 parce que la seule personne que vous allez rencontrer à la fin, c'est Dieu. Ce n'est pas le président, ce n'est pas le plus riche de la terre, c'est Dieu. Et tous vos biens resteront sur la terre. Et c'est là où on va voir notre cœur, justement. Et c'est lui qui sera évalué à ce moment-là, pas à votre compte en banque. Non, si vous avez beaucoup d'argent, la Bible nous dit d'investir dans le royaume de Dieu. Et le Seigneur, s'il donne des fois de l'argent à certaines personnes, c'est pour qu'ils agissent dans ce sens, pas pour qu'il y ait beaucoup de zéros. Je connais des églises qui ont des millions d'euros sur leur compte. Ça sert à quoi? Ça sert à quoi? Hein? Il faut les donner à d'autres projets, pour aller investir pour des nouvelles églises. On a besoin de bâtiments, on a besoin de missionnaires, de pasteurs, on a besoin... Souvent, c'est l'argent qui bloque des projets, tout simplement, missionnaires ou autres. À quoi ça sert d'avoir autant d'argent sur un compte en banque? Juste pour dire, regardez, j'ai un sacré compte en banque. Donnez-le-moi, je saurai quoi faire. Bon, belle l'église après. Hein. Mais la vie ne dépend pas de nos biens, ni de l'église. Hein. Oubliez aussi quelles sont les vraies richesses. Hein. Quand je trompe mon cœur, j'oublie où sont les vraies richesses. On l'a dit, le Seigneur nous demande de chercher d'abord le royaume de Dieu. Il faut investir les richesses dans ce royaume. Pas dans le super bateau ou je ne sais pas quoi, dans le royaume. Cela signifie qu'il faut quand même travailler, parce que le Seigneur nous demande de travailler. Hein. Si vous voulez manger, il faut travailler, ça ne marche pas autrement. Mais l'objectif, ce n'est pas de devenir riche à foison. L'objectif, c'est ensuite, comme dit 1 Timothée 6, 18 à 19, « Recommande-leur de faire du bien, d'être riche en bonnes œuvres, d'avoir de la libéralité, de la générosité. » Et de s'amasser ainsi pour l'avenir un trésor placé sur un fondement solide afin de saisir la vie véritable. Si vous voulez mettre votre argent à la bourse, c'est fragile. Hein. Ça peut changer du jour au lendemain. On l'a déjà vu plusieurs fois. Il y a eu plusieurs crashs. Mais le solide fondement, c'est justement d'investir dans le royaume de Dieu, dans ce que Dieu veut faire pour l'Église et faire avancer son royaume, justement. Là, vous investissez bien, non seulement vous serez heureux de l'avoir fait, vous verrez peut-être les fruits aussi de cela, des conversions, des églises qui naissent, etc. Mais surtout, le Seigneur sera heureux de ce qu'on a fait avec. Donc quand vous aurez 1 million d'euros sur votre compte, et un jour ça vous arrive, dites-vous qu'on va arrêter là et qu'on va peut-être investir dans le royaume, tout simplement. Pas forcément ici, hein, on peut soutenir des missionnaires, il y en a qui ont vraiment des besoins partout dans ce monde. Hein. Et ça ne sert à rien de faire dormir notre argent sur le compte. Il n'y a que le banquier qui est content. Et lui, il se fait des pépettes pendant ce temps-là. L'origine de cette mauvaise conception peut être le fait d'exclure Dieu dans nos projets, ou des fois de le mêler à moitié, tout simplement. Ben, il dit au verset 16, c'est la présomption. C'est le mot grec veut dire des pensées orgueilleuses. Alors, on ne le voit pas directement qu'on est orgueilleux des fois. C'est bien caché au fond de notre cœur. Mais des fois, on est orgueilleux. Le mot parle de vantardise. Vous avez vu tout ce que j'ai gagné cette année? Vous avez vu mon chiffre d'affaires? Hein? Pas vous, hein? Bon, il n'était pas terrible le mien, mais bon, précis. Mais vantardise, satisfaction insolente, il y a de l'insolence là-dedans, vis-à-vis de Dieu, peut-être des hommes des fois, mais de dire, tu vois Seigneur, j'ai réussi à faire mon affaire, j'avais pas besoin de toi. Si on le dit, c'est quand même grave. Hein. Mais des fois, on le pense quand même un petit peu. La présomption, ça concerne souvent l'impie, hein, celui qui ne connaît pas Dieu. Il fait des choses et il croit que sa vie va être stable parce qu'il a des richesses terrestres, etc. Et puis, ben, attentat ou autre chose qui arrive dans la vie, et puis il lui rappelle bien à l'ordre. Mais voilà, nous ne sommes pas des gens du monde et nous savons que ces choses peuvent nous arriver. Nous sommes fragiles, que nous sommes faibles et que nous avons besoin de compter sur Dieu. L'orgueil détrône Dieu. Et si moi-même j'ai de l'orgueil dans ce que je fais, peut-être dans mon travail ou ailleurs, dans mes projets, ben je détrône aussi Dieu. Je remplace Dieu par mon orgueil, par mes capacités, par ma valeur, je ne sais pas, qu'est-ce qu'on pourrait mettre, le moi, hein, qui est bien souvent là. Et à la fin, on se glorifie du projet qu'on a réussi, sans penser que c'est Dieu qui a permis qu'on réussisse, même quand on ne lui a pas demandé, hein, des fois. On se glorifie de choses que Dieu a fait pour nous. C'est rigolo hein, quand on y réfléchit un peu. Dieu, des fois, il doit s'arracher les cheveux là-haut, hein, avec nos cœurs et notre orgueil. Mais c'est lui qui a permis peut-être que les choses soient autorisées. Soyons pas sûrs de nous, Proverbe 27, 1, il est dit, « Ne te vante pas du lendemain, car tu ne sais pas ce qu'un jour peut enfanter. » Soyez pas sûrs de ce qui va arriver demain. On est obligé de se projeter, on est obligé de préparer nos affaires, etc. En plus, c'est la rentrée demain. On ne sait pas ce qui va arriver demain, tout simplement. Et on n'a pas à avoir de l'orgueil dans ce domaine-là. Et si on n'a pas d'orgueil, forcément, on va soumettre ce lendemain à notre Dieu. Et on va lui demander d'être avec nous. L'orgueil détrône l'amour aussi. Parce que quand je suis orgueilleux, vis-à-vis peut-être du profit ou de ce que je fais dans mes projets, je cherche finalement à me valoriser. Et là, je me compare aussi aux autres. Regardez comme moi, je réussis, et pas vous. C'est ça, être orgueilleux aussi. C'est se comparer aux autres, se croire peut-être des fois meilleur que les autres. Là, évidemment, Dieu n'est pas content. Alors, vous allez me dire, mais dans une société aujourd'hui de compétition où justement on doit écraser l'autre au boulot pour avoir de la valeur vis-à-vis du patron, parce que c'est comme ça aujourd'hui, de pire en pire d'ailleurs, nous, en tant que chrétiens, on ne devrait pas agir comme cela. On est tenté de le faire des fois, mais vaut mieux confier ce projet à Dieu plutôt que d'aller écraser mon prochain. On ne ferait peut-être pas dans l'église, encore que, ça arrive, mais non plus pas dans le monde, sur nos lieux de travail et ailleurs. Si Dieu veut vous donner une promotion, il vous l'accordera que vous voulez ou non. Quelqu'un disait, un architecte qui s'appelle Frank Lloyd Wright, il disait, mon projet préféré, c'est le prochain. C'est beau. Mon projet préféré, c'est le prochain. Et là-dedans, ça va inclure justement le royaume de Dieu, comment se sentent les autres, comment ils vont. Il y a tellement de champs d'action là, à ce moment-là, si l'autre devient mon prochain. Vous imaginez le monde qui s'arrête d'un coup, et que chacun se repente, et que d'un coup, le projet, c'est l'autre. Pour les présidents, pour les ministres, pour les gens au travail, c'est toi que j'ai envie de t'aider maintenant. Ce serait bizarre, hein? Donc, on se réveillerait en se disant, mais qu'est-ce qui est arrivé dans ce monde? Il devient beau. D'un seul coup, on va aider les autres. Ce serait extraordinaire. Qu'est-ce que j'aimerais bien que ça arrive? Mais je sais très bien que là, mon projet, il ne va jamais arriver. Parce que la Bible dit que les choses vont aller de pire en pire. Mais ça serait beau. Maintenant, on ne pourra peut-être pas le faire au niveau universel. On peut le faire au niveau local, déjà. Et dans notre église locale. Est-ce que mes projets concernent uniquement moi? Ou est-ce que de temps en temps, je me dis, tiens, ce serait bien d'investir peut-être pour aider quelqu'un, je ne sais pas, c'est pas forcément une question d'argent, mais de m'intéresser peut-être à l'autre et voir si je peux aider d'une manière ou d'une autre, à le faire grandir spirituellement par exemple, ou s'il est vraiment dans le besoin, si je peux l'aider discrètement. Il y a 1000 projets à faire dans une église, le tout c'est d'être sensible à ces choses-là aussi. Donc les projets sans Dieu sont présomptueux, si vous voulez vraiment vous projeter sans Dieu, trafiquer sans Dieu, vous êtes orgueilleux, tout simplement, dit la parole. Et en même temps, on ne cherche pas le royaume de Dieu, on ne cherche pas son expansion, on cherche simplement sa propre expansion et sa propre gloriole. Mais Jacques donne le deuxième exemple, c'est d'intégrer Dieu dans tous nos projets. Je souligne le tout, pas le, de temps en temps, dans tous les projets. Une bonne conception des projets inclut forcément Dieu. Je vais faire des études. Qu'est-ce que Dieu pense de ça? Est-ce que, Seigneur, tu pourrais me convaincre peut-être dans telle ou telle situation? Est-ce que je dois aller dans cette branche? Et souvent, les jeunes, même les jeunes chrétiens, ils savent pas quoi faire. Eh bien, priez, pas une fois, 10 fois, 20 fois, 100 fois, jusqu'à ce que la réponse soit là. Dans nos projets personnels, maison, voiture, je sais pas, il y a tellement de choses dans notre vie, on devrait dire « si Dieu veut ». Alors c'était en fait un dicton populaire autrefois, si les dieux le veulent ainsi, que cela soit ainsi. Donc il reprend quelque chose qui était populaire, mais ça fonctionne aussi pour nous, si Dieu veut. Le problème c'est de savoir qu'est-ce qu'il veut, parce que je l'entends souvent, à dimanche oui si Dieu veut, oui mais Dieu veut dimanche que vous veniez, donc il n'y a pas besoin de le dire. Mais après il y a d'autres si Dieu veut évidemment dans notre vie. Mais ça nous rappelle qu'il y a un seul Dieu, parce que lui, il revient à Dieu seul, et pas au Dieu que les Romains à l'époque connaissaient, ou les Grecs, il revient au seul Dieu unique. Et toute ambition personnelle, d'église même, pourquoi pas, de groupe d'église, je ne sais pas, devrait passer par un filtre qui s'appelle Dieu. Je m'arrête, j'ai conçu mon projet, ça a l'air bien, ça a l'air génial, on va y arriver. Mais je m'arrête, et je pose la question à Dieu maintenant, tu es d'accord ou tu n'es pas d'accord? Et ce n'est pas parce que j'ai posé la question là que vous aurez un SMS ou une lettre. Ça ne vient pas comme ça. Il faudra peut-être recommencer une fois, deux fois, trois fois. Généralement, on peut commencer à se lancer dans le projet, mais avec l'humilité de dire à Dieu, arrête-moi. Parce qu'il faut quand même que des fois on avance. Mais si vraiment tu ne veux pas, arrête-moi, tout simplement. C'est pas compliqué. Et Dieu s'est fermé les portes. Il a fermé les portes à Paul deux fois par le Saint-Esprit. Il voulait aller évangéliser. Et Dieu lui a fermé les portes. Qu'est-ce qu'il a fait ? J'en ai marre. Tout le temps, tu fermes les portes. Il y en a marre. C'était pas un bon projet, quand même. Hein ? Je vais pas faire l'enfant gâté, désolé, mais j'essaie. Mais on est comme ça, des fois. Est-ce que tu es d'accord ? En fait, il s'agit, en réalité, de choisir entre deux conseillers à ce moment-là, à la croisée des chemins, on pourrait dire. Le premier conseiller, c'est moi, avec ma propre connaissance de l'avenir. Alors, j'ai fait des projections, j'ai peut-être fait une étude de marché, et ça a l'air d'être OK. Bon, pourquoi pas ? Il y en a qui arrivent, hein, on va se dire. Mais j'ai un deuxième conseiller, il s'appelle Dieu. Alors lui, il est omniscient, il sait absolument tout. Demain, après-demain, dans 10 ans, dans 20 ans. Il sait absolument l'avenir, il connaît la bourse. Bon, même si je ne sais pas s'il s'intéresse vraiment à ça, hein, mais il connaît. Il connaît les tendances, il sait si vous allez avoir des clients ou si tel projet de l'Église va fonctionner. En fait, il sait absolument tout. Donc, un homme qui sait un petit peu et Dieu qui sait tout, à qui je vais confier mes projets ? Oui, mais généralement, on les confie à nous-mêmes. Eh oui. Ou un petit peu à Dieu, mais pas entièrement. C'est ça le problème. Et on le sait, mais on ne le fait pas souvent dans notre vie. En réalité, le chrétien a une chance mais extraordinaire d'avoir un conseiller comme ça. Je ne sais pas si vous réalisez. Chaque fois que vous avez un projet, vous avez la chance d'avoir un conseiller extraordinaire qui va vous donner une réponse favorable, défavorable, qui va des fois vous faire attendre pendant un certain temps. Mais c'est génial. On va plus se planter. Non ? Non, ça ne vous parle pas. Vous ne voulez plus vous tromper ? Ben, y a Dieu, tout simplement. Je peux présenter mes projets à Dieu. Mais si Dieu veut, alors ce n'est pas une formule magique non plus, je l'entends bien souvent comme une formule magique, si Dieu veut, ça sous-entend aussi que je vais être sincère dans mon cœur pour rechercher la volonté de Dieu. Et ça implique évidemment de prier, de lire la parole, parce que là aussi ça passe par ce filtre-là. Mais je suis sincère devant Dieu. Souvent, hein, on est à demi-sincère ou on garde quand même un petit peu quelque chose pour nous. Non, je veux me présenter devant Dieu avec toute la transparence possible, avec mon cœur, sans tromper Dieu. Comme si on pouvait tromper Dieu, parce que c'est très bien ce que j'ai dans le cœur. Mais je veux être sincère devant lui. Hein. Ce n'est pas toujours évident, parce qu'il y a l'ambition qui est derrière, il y a la chair. Je sais que ça, c'est bien pour moi, mais il faut que je remette ça à Dieu. Ça m'énerve. C'est énervant, des fois, de remettre les choses à Dieu. Je suis désolé. Hein. Mais bon, c'est accepter la volonté de Dieu. Et là, il va me dire oui, il va me dire non, il va me faire attendre. Bon, ben soyons patients. Je me souviens, mon directeur d'institut biblique avait une fois un projet pour l'Église et il l'avait présenté au conseil, et, non, à l'Assemblée générale, tout le monde, non. Il est reparti un petit peu amer en disant, mais c'était le moment, c'était le projet. Et finalement, un an après, représenter le projet et c'est passé comme une lettre à la poste. Il y avait peut-être du temps. Il faut des fois attendre certaines situations ou le temps de Dieu pour que les choses puissent se faire aussi. Ce n'est pas en voulant aller vite qu'on doit faire ses projets. C'est long d'attendre. Hein. Vous aimez attendre, vous ? Je déteste attendre. Moi. J'aime quand ça va vite, vite. Surtout, je suis un gros nerveux, donc en plus, ça n'aide pas. Mais j'aime que ça aille vite. Mais Dieu m'a aussi montré dans ma vie que des fois, ben, il va attendre un an, deux ans, trois ans. Ben ouais, et peut-être même plus des fois, parce que ce n'est pas le moment. Et c'est pour mon bien, finalement. Des fois, on se lance quand même, et puis on s'écroule comme château de cartes, et puis là, on dit « Ah, mais je savais qu'il fallait que j'attende, mais je ne l'ai pas fait. » C'est triste. Une bonne conception des projets considère aussi la volonté de Dieu. C'est travailler en association avec Dieu. C'est génial de s'associer avec Dieu. Des fois, on s'associe avec un collègue. Bon, il a ses limites, et voilà, mais m'associer avec Dieu, wow, ma société, elle va bien marcher, à mon avis. Ça ne veut pas dire qu'on sera toujours parfait, mais on va être avec quelqu'un qui connaît les choses. Vous savez, on est enfant de Dieu. Et en tant qu'enfant, normalement, on demande à ses parents avant de faire quelque chose. Enfin, normalement, je sais que ça change un peu aujourd'hui. Mais on veut être soumis, justement, au Père. Hein? On a envie de demander à papa et à maman, comme on a envie de demander au Père, parce qu'eux ont une expérience de la vie et vont pouvoir me conseiller. On n'est pas souvent des enfants obéissants, ok, mais c'est aux parents de leur apprendre, surtout. Hein? Mais on soumet les projets au Père, de la même manière qu'on le fait avec ses parents, quelque part. Et en tant qu'enfant de Dieu, nous voulons travailler pour Christ, avec Christ. Vous savez que vous avez un patron, hein ? C'est Christ, votre patron. Alors, il veut pas, le mot patron, souvent, est un peu négatif, on va dire, mais c'est un bon patron. C'est le meilleur des patrons qu'on peut avoir dans notre vie, mais c'est lui, mon boss. C'est lui l'architecte de ma vie, de la vie de l'Église, de tous les projets que l'on a. C'est lui, mon boss. Et forcément, comme dans votre travail, vous n'allez pas faire les choses tout seul. Vous allez d'abord passer par le boss. Vous posez la question avant de vous projeter. C'est tout à fait la même chose avec le Seigneur. Vous savez, si on confie les projets à Dieu, on fera moins d'erreurs. C'est sûr. Je ne dis pas qu'on n'en fera pas. On fera moins d'erreurs. On va moins pleurer sur ses erreurs. Parce que moi, j'aime pas pleurer. J'aime pas quand je me plante. Ça nous arrive. On va avoir moins de dettes, peut-être. Ah oui, parce qu'investir, des fois, c'est pas évident. Hein. Enfin, on va avoir moins, tout simplement pour être plein de paix. Parce que j'ai confié mon projet à Dieu. Et là, forcément, s'il me guide, s'il m'arrête, s'il me lance, eh ben, tout va bien se passer, tout simplement. C'est chouette, non ? C'est chouette de pouvoir démarrer un projet de vie, d'église, etc. avec cette base, tout simplement. Et en même temps, quand on le fait, vous savez, Dieu est complètement honoré. On veut l'adorer par les chants, on veut faire un tas de choses, mais l'inclure dans nos projets, c'est aussi adorer Dieu. Parce que vous dites, Dieu, tu fais partie de ma vie, pleinement. Ouais, tu fais partie souvent de ma vie, mais bien loin, hein. Va là-bas. Non, là, je l'honore parce qu'il est vraiment au fond de mon cœur, dans ma vie. Vous savez, au départ, le jardin d'Éden, c'était ça, hein. Adam et Ève, dans le jardin, avec le luxe du jardin qu'il devait y avoir à l'époque, et Dieu qui était là et qui les conseillait, qui les aidait, tout simplement. Évidemment, l'homme a dit non. Et puis, le péché est entré dans le monde, et on sait qu'est-ce que ça a donné, tout simplement, quand on n'implique plus Dieu dans notre vie. Le monde est la démonstration parfaite de cela. On l'honore aussi comme un père, hein, parce que comme un papa aime conseiller ses enfants, enfin je crois, je n'ai pas eu la chance d'être papa, mais j'aurais bien voulu conseiller mes enfants, donner la permission de temps en temps à l'enfant, parce qu'il va poser la question, est-ce que je peux aller jouer dehors ou pas ? Est-ce que je peux faire telle bêtise ? Non. Guider aussi son enfant dans la vie, parce que l'enfant en a besoin, même s'il ne veut pas, mais on est là comme un guide. Dieu veut faire exactement la même chose. Il veut vous conseiller, vous guider, vous donner la permission de temps en temps, dans tous ces projets. Quand vous lisez la Bible, hein, chaque fois les apôtres ou d'autres, avant de faire quelque chose, ils ont demandé à Dieu. Et les projets ont réussi. Et Paul, quand il a été arrêté, c'était pour être amené ailleurs. Il avait un projet, mais Dieu lui a dit, non, j'ai autre chose à faire pour l'instant. Voilà. Ça ne veut pas dire qu'après, ils ne vont pas se convertir. Donc c'est extraordinaire de se dire que si je présente sincèrement mes projets à Dieu, personnel, église, je sais que Dieu va agir en conséquence, m'arrêtera, il me poussera, il me fera attendre, mais je sais que c'est remis entre les mains de Dieu. Et ses projets réussiront, même si c'est un échec au bout, parce que Dieu ne le voulait pas. Si j'ai dû arrêter, on peut croire que c'est un échec. Ben non, c'est une réussite, justement. Stopper des fois des projets, c'est une réussite. Ça paraît un peu paradoxal comme ça, mais c'est vrai. Et des fois, heureusement que le Seigneur nous stoppe, même si on veut encore avancer. C'est pas où on serait des fois. Et encore, une bonne conception des projets ne commet pas de péché d'omission. Hein. Celui qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas, commet un péché. Bon, certains pensent que là, Jacques est en train de conclure un peu sur tout ce qu'il a déjà dit avant. Hein. On parlait du favoritisme et de toutes les, la calomnie et toutes ces choses, la langue. Il conclurait un petit peu là-dessus que le chrétien sait ce qui est bien, normalement. En tout cas, il devrait connaître la volonté de Dieu. Si au bout d'un certain temps de vie chrétienne, je ne sais toujours pas ce que Dieu veut dans ma vie, au moins une partie, c'est qu'il y a un problème. C'est sûr, vous ne lisez pas votre Bible. C'est sûr, vous n'assistez pas à l'église. Vous ne prenez pas le temps de prier. Mais un chrétien devrait connaître. Nul n'est censé ignorer la loi. Ben, c'est pareil avec Dieu dans le monde. Nul n'est censé ignorer la parole de Dieu. Alors on apprend, hein, il faut du temps pour digérer tout ça, évidemment. Mais si je lis régulièrement, je vais déjà connaître la volonté de Dieu suffisamment pour être utile dans ma vie au quotidien. Mais si je sais ce qui est bien et que je fais le contraire, alors j'agis tout simplement contrairement à ce dont je suis convaincu dans mon cœur. Je sais que Dieu ne veut pas que je fasse ça, mais je vais quand même le faire. Et là, je pêche. Dans notre cœur, on dit, c'est pas un péché. Ben si, c'est un péché. Jacques le dit. La parole le dit, c'est un péché. Si j'agis contrairement à mes convictions, et surtout à ces convictions qui ont été créées par la parole de Dieu, je commets une infraction. Enfin, ce n'est pas qu'une simple infraction, je commets un vrai péché. Et rarement, on demande pardon pour ça. Rarement. C'est curieux, hein, parce qu'on dilue un petit peu ça. Jésus avertit de ce genre de péché, hein, on ne va pas lire dans Luc, etc. On connaît un peu la parabole des mines, des talents. Il avait confié des choses à certains. Il devait travailler avec. Il y en a qui ne l'ont pas fait. Et ils seront condamnés. Parce qu'ils n'ont pas agi, parce qu'ils n'ont pas fait ce que le Seigneur leur avait demandé. et Dieu ne rigole pas. Alors là, on est convaincu pour ces gens-là dans la parabole, mais c'est pareil pour nous. Dieu nous tient pour responsables, hein, de ce que nous faisons. Et quand je connais Dieu, quelque part, j'engage ma responsabilité aussi du fait de le connaître et de connaître ce qu'il veut ou ce qu'il ne veut pas. Savoir, justement, la volonté de Dieu, ben, ça me pousse à agir avec Dieu ou comme Dieu le voudrait. Sinon, ça sert à quoi de le connaître? Ça sert à quoi de lire la Bible si je m'en fiche de ses conseils? C'est paradoxal, encore une fois. Pourquoi je veux connaître Dieu et m'en fiche de ce qu'il me conseille, tout simplement? Savoir nous rend responsables aussi devant Dieu, parce qu'il va observer comment je vais faire mes prochains projets, mes comportements. S'il me dit non, par exemple, et que je piétine des pieds comme un enfant, que je boude, il le voit aussi. Il nous observe, et il voit tout. On n'a pas l'impression des fois, hein, parce qu'on cache des choses, mais il voit tout. Si nous savons ce qu'il veut, si nous savons ce que la Bible nous demande de faire, si nous connaissons les commandements, ben, il s'agit d'agir en conséquence, tout simplement. Tu ne voleras point. On ne vole pas. Non? Vous volez? M'inquiétez, là. Ouais, y a plusieurs manières de voler aussi, hein. Les impôts, d'autres trucs, hein. Mais le Seigneur nous demande de ne pas le faire. Il nous demande d'agir en conséquence des convictions qu'il nous a forgées et qui viennent de sa parole de Dieu. Et c'est comme ça que lui, il va être honoré. Non seulement honoré parce qu'on va obéir à ce qu'il veut, sa volonté, mais en même temps, on va l'honorer parce qu'il va participer à ce projet et va finaliser ce projet. Et là, Dieu, oh, il est heureux. Hein, ça fait plaisir. Parce que quand on vient vers vous et qu'on fait la même chose avec vous, vous êtes honoré. Ah, il m'a demandé des conseils, tout ça, c'est que quelque part, on part dans l'orgueil, mais on est honoré aussi. Et Dieu est aussi honoré quand on lui confie tous nos projets. Une bonne conception des projets intègre le paramètre Dieu, le paramètre sa volonté, tout simplement. Et c'est pas facile de le faire, pas toujours. Mais si vous le faites, vous verrez que la vie change complètement. Vous allez pleurer des fois parce que Dieu ne voudra pas faire certaines choses. Hein, moi, j'avais des projets pour ma vie, c'était pas d'être pasteur, hein, pas du tout. Bon, j'ai pas pleuré, mais bon. Je me dis des fois, qu'est-ce que ma vie aurait été sans ça, hein. Un grand responsable dans une usine, non, j'aurais une belle maison, j'aurais plein de choses. Mais je préfère faire la volonté de Dieu, c'est bien préférable. Pour terminer, vous avez des projets? Peut-être avant, vous aviez des projets la semaine dernière, vous disiez, je vais faire des choses, je vais faire ça. Puis là, il me plombe mon élan, là. Pas moi, hein, c'est la parole de Dieu. On n'a pas besoin d'être commerçant, hein, pour faire du profit ou avoir des projets ou se projeter dans l'avenir. Chacun d'entre nous le faisons d'une manière ou d'une autre. Jacques nous encourage à cesser d'être prétentieux. Et on l'est, qu'on le veuille ou non, on l'est. Un peu, beaucoup, à la folie, je ne sais pas, mais on l'est bien souvent. Et le facteur Dieu n'est pas toujours dans l'équation. Et c'est bien dommage, hein. Le Seigneur veut intégrer l'équation et ses projets pour nous aider, tout simplement. Parce que si j'agis sans Dieu, ou un peu sans Dieu, je pêche. Eh oui, il ne faut pas se dire « c'est pas grave, on pêche ». Souvent, on le voit bien plus tard, hein, parce qu'on récolte les fruits de nos bêtises, et là, on pleure devant Dieu, mais Dieu dit « mais tu savais, tu as péché, tu récoltes le fruit de ton péché, tout simplement ». On veut être des enfants qui ont besoin de leur Père. On veut être ces enfants qui avons besoin de ce Père céleste dans tous nos besoins. Il n'y a pas que les projets, hein, il y a mille choses, mais au moins dans ces situations-là. Paul disait en 1 Corinthiens 10:31, « Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. » Boire et manger pour la gloire de Dieu. C'est les choses basiques de ma vie, ça, non? Vraiment les plus élémentaires, on va dire. Quoi que je fasse, je veux le faire pour la gloire de Dieu. Et forcément, si j'ai des projets, mon but, c'est aussi de glorifier Dieu. Si un jour j'ai une maison, une belle maison, quand je la montrerai aux gens, eux deux, mettre son orgueil en avant, Dieu m'a permis d'eux, Dieu m'a donné les moyens, Dieu a fait si, merci Seigneur, pour m'avoir accompagné dans ce projet de vie, tout simplement. C'est aussi honorer Dieu, cette manière-là, hein, parce que Dieu nous donne des belles choses, des fois. Mais souvent, on dit que c'est grâce à notre travail, à notre effort, etc. Mais on oublie souvent de souvenir que c'est Dieu qui a permis les choses derrière, tout simplement. Faisons tout pour la gloire de Dieu. Et finalement, intégrer Dieu dans nos projets, ça ne peut être que bénéfique. On veut faire des profits, on veut faire du bénéfice, eh bien intégrer Dieu. Et alors vous aurez du bénéfice. Mais un vrai bénéfice, ça ne sera pas en argent ou en euros. mais ça sera dans le fait que Dieu est honoré et que le royaume de Dieu avance. Et c'est ça qui va terminer dans l'histoire, c'est le royaume de Dieu. Pourquoi investir dans des immeubles ou je ne sais pas quoi? Tout ça, ça va être rasé. Le royaume de Dieu, par contre, lui, va être instauré. Donc, vaut mieux investir dans des choses qui sont avec des bénéfices, et surtout, quels bénéfices, tout simplement. Que le Seigneur nous aide, et tout simplement dire merci, Seigneur, pour tous les projets que nous allons te mettre devant toi. Prions. Seigneur, merci pour ta parole, qui est la vérité, qui nous donne de très bons conseils, Seigneur, et merci pour les conseils de Jacques, en particulier dans nos projets de vie, nos projets d'église peut-être, nos projets personnels. Voilà, bien souvent nous devons confesser que nous ne prenons pas le temps, ou trop rapidement peut-être, pour te les présenter, pour t'intégrer vraiment pleinement dedans, pour filtrer toutes ces ambitions, Seigneur, qui viennent bien souvent de la chair. Mais Seigneur, apprends-nous à te placer en plein milieu de ces projets, pour entendre tes conseils, prendre le temps, s'il faut prendre le temps. Donne-nous la patience de t'écouter, Seigneur, et à accepter aussi parfois les noms que tu nous accordes avec beaucoup d'amour, Seigneur. Je te prie pour cette Église, et tu as des projets, que tu nous guides, que ce soit le conseil, mais aussi chacun d'entre nous dans ce projet, que cette Église puisse grandir selon ta volonté. Aide-nous, Seigneur, parce que nous avons vraiment besoin de toi dans cela, comme un papa qui veut tout simplement nous conseiller. Prions en Jésus-Christ. Amen. Amen.